pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Alors comme tous les jours vous partez d'une actualité pour nous parler de philosophie, jusqu'à présent vous nous avez parlé d'anniversaire à chaque fois, hein, David Bowie, Benjamin Constant, encore un anniversaire aujourd'hui ?
Encore un Adèle, encore un Simone de Beauvoir dont on fêtait les 110 ans de la naissance ce mardi 9 janvier, un anniversaire qui tombe à pic. Alors pas comme un clin d'œil seulement parce qu'on fait cette semaine des chemins consacrés entièrement à l'être et le néant de Sartre, mais parce que celle à qui l'on doit le deuxième sexe, paru je le rappelle en 1949, reste une figure incontournable du féminisme, de ses questionnements, de ses vagues successives, de ses tensions ou contradictions, en tout cas encore et toujours, en témoignent ces derniers mois de sa forte actualité et bien sûr de sa thèse cruciale.
Expliquer, on ne naît pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite. D'abord, l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel. Et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
Justement, en termes d'actualité et de tension, l'anniversaire de Simone de Beauvoir s'est posé là, car ce jour-là, le mardi 9 janvier, ce n'était pas seulement remis, je le rappelle quand même aussi, le prix Simone de Beauvoir à la journaliste et écrivaine turque Asli Erdogan, mais, et c'était peut-être vraiment un clin d'œil pour le coup, est sorti dans Le Monde une tribune signée par 100 femmes intitulée « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle ». Tribune qui s'élève face à celle et ceux d'ailleurs qui s'étaient lancés dans l'affaire Weinstein et y voyait une échappée vers plus d'égalité homme-femme. Alors, cette tribune ne vise pas Simone de Beauvoir, mais elle nous montre qu'en termes de féminisme, la philosophe a en tout cas visé juste, en dénonçant ce mythe d'éternel féminin et en pointant l'absence de nature féminine. Oui, ce qu'on voit bien à travers ces oppositions, c'est bien cette absence de consensus sur ce qu'est une femme, cette absence de consensus culturel, dès qu'il n'y a plus de nature, plus de données qui s'imposent, déterminent et entravent. Et tant mieux d'ailleurs, car une absence de consensus, c'est à la fois une ouverture des possibles et un passage obligé vers tout un ensemble de conflits, l'occasion de s'interroger sur l'essence de la femme, d'y mettre fin ou de la réinventer. Alors qu'est-ce qu'une femme ? Qu'est-ce que devenir femme ? Qui ou que devient-on quand on devient femme ? Faut-il d'ailleurs parler de femme, d'une femme ou des femmes ou encore de la femme ? Un homme peut-il devenir une femme ? Une femme est-elle forcément féminine ? Et est-elle forcément féministe ? Voilà tous les fils que l'on peut tirer à partir de cette seule affirmation de Simone de Beauvoir, de cette thèse cruciale, devenue parfois slogan politique et même parfois accroche publicitaire, mais à qui l'on doit de reposer derrière sa simplicité du débat. Car oui, c'est à partir de cette seule thèse que l'on peut questionner ce qui a lieu depuis quelques mois et a pris un autre tournant ces jours-ci. Derrière les conflits, les contextes, encore faut-il pouvoir se poser ses questions et choisir sa manière de devenir femme.
Dès le début, j'ai toujours voulu avoir une vie, je dirais, indépendante. C'est-à-dire, d'une part, gagner ma vie moi-même, ce que j'ai fait en passant des examens et en devenant professeur, et ensuite avoir une activité qui vraiment me tienne à cœur, et ça c'était de devenir écrivain. J'ai toujours voulu ça, même très très jeune, et c'était bien plus important pour moi que toute espèce d'autre option. Et c'est ainsi que j'ai été fidèle à cette option, parce que par exemple, lorsque j'ai été nommée professeur à Marseille, et que je tenais beaucoup à mes amitiés à Paris, et particulièrement à Sartre, dont je venais de faire la connaissance, il m'a proposé, voyant que quand même la séparation m'angoissait un peu, il m'a proposé que nous nous marions, et j'ai absolument, décidément, tout de suite refusé. Parce que je pensais qu'il fallait à une femme une certaine solitude, et une liberté qui ne peut venir que de cette certaine solitude, et que même si on s'entend très très bien avec quelqu'un, il ne faut pas être entièrement dévoré par une vie commune.
Peut-on choisir de devenir femme ? Comment choisir de devenir femme ? Une certaine femme, mieux, devenir femme implique-t-il d'abord de faire un choix, de pouvoir en faire un ? Eh bien, en ce qui concerne cette tribune du Monde, il faudrait revenir, cela a déjà été fait, sur tous ces arguments qui me semblent réduire le mouvement né de l'affaire Weinstein à une guerre des sexes, que personne ne veut, à une haine des hommes dont il n'est pas question, et donc à une certaine aussi idée de la femme, au choix, dans cet article, dans cette tribune, victime, quand elle est d'accord avec le mouvement Balance ton porc et MeToo, objet sexuel, quand elle y voit à l'inverse une entrave, parfois aussi à la tête d'une équipe professionnelle. Mais justement, là est bien le problème, au choix, le choix. Comme l'indique Simone de Beauvoir dans cette archive, elle a bien choisi de ne pas se marier avec Jean-Paul Sartre. Mais qui peut choisir ? Tout le monde veut bien être à la fois chef la journée, objet sexuel la nuit, le veut bien, mais qui peut vraiment, qui a vraiment la possibilité, j'entends, de jouer tous ces rôles ? L'enjeu est qu'on puisse le dire, le faire, le choisir. Alors pour ma part, vraiment, je vois cette tribune comme un moment nécessaire qui permet d'affiner et de renforcer le mouvement qui fait suite à l'affaire Weinstein. C'est une contradiction nécessaire et dialectique pour qu'il se précise et se poursuive, et pas n'importe comment, mais n'importe où et pour toutes et tous. Et justement, dans le cahier de Lerne consacré à Simone de Beauvoir, qui reparaît à l'occasion de ce 110e anniversaire de sa naissance, eh bien on peut découvrir ce texte qui résonne parfaitement avec cette tribune et y répond, je cite, « Elle est en train de devenir indépendante et responsable, actrice de la construction du monde, mais cette métamorphose fait encore peur, mille prophètes grommellent qu'elle va ruiner l'amour et avec lui toute poésie, toute illusion. N'est-il pas possible de concevoir un nouveau genre d'amour dans lequel les deux partenaires seraient égaux ?»
Merci Géraldine de nous parler de Simone de Beauvoir et de nous donner votre avis si précieux. Alors du coup, vous nous invitez à lire de Simone de Beauvoir, enfin sur Simone de Beauvoir,
Ce cahier de Lerne, où on retrouve donc des textes préliminaires au deuxième sexe, et puis évidemment tout un ensemble d'articles, d'appareils critiques sur Simone de Beauvoir, notamment sur le féminisme, mais pas que sur le féminisme, il faut le dire.
Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.